L'évangile de Jean est chapitre 13. Nous avons vu les versets 1 à 17 dimanche passé, où Jésus lave les pieds de ses disciples. Pendant ce dernier souper avant sa mort, la nuit avant sa mort, la fête de Pâques, et je vais juste vous lire les quelques versets au début du chapitre 13 et nous allons après ça sauter au verset 18. Avant la fête de Pâques, nous dit Jean qui était là intimement lié à tout ce qui s'est passé, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, ou plus exactement, jusqu'au comble, jusqu'à l'extrême. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'entoura. Vous savez la suite. Jésus lave les disciples, lave leurs pieds. Il leur enseigne après deux leçons, une au sujet du salut, une au sujet du service humble que nous devons rendre aux autres en les lavant les pieds, métaphoriquement. Et au verset 17, on va le reprendre au verset 17, le Seigneur finit cette deuxième leçon en disant, si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. Donc ce service humble de laver les pieds des autres, de servir les autres humblement. Ce n'est pas de vous tous que je le dis. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Et il cite le psaume 41. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Psaume de David parlant de son ami Ahithophel qui le trahit, qui se retourne contre lui, et tout le verset dit, c'est mon ami intime qui a mangé mon pain, qui a levé son talon contre moi. Et vous voyez l'image est assez terrible. Quelqu'un qui lève son talon pour donner le coup de pied à son ami. Dès à présent, je vous le dis, donc que je serai trahi. Dès à présent, je vous le dis avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrive, vous croyez que moi, je suis. C'est les mêmes mots, je suis, que nous avons vu tout à l'heure. En vérité, je vous le dis, qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. Le mot grec, c'est témoignage. Fit ce témoignage. En vérité, c'est-à-dire Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, c'est Jean, l'auteur de l'évangile qui se nomme ainsi, il est assez modeste pour ne pas mettre son nom. Mais il s'identifie comme un des disciples, celui que Jésus a aimé. Non pas qu'il n'a pas aimé les autres, mais son impression de sa vie avec Jésus, c'est d'avoir été le disciple qu'il aimait. Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe, donc à Jean. Et lui dit, demande qui est celui dont il parle. Et ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus et lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit, sans doute à voix très basse, c'est celui pour qui je tremperai le morceau et à qui je le donnerai. Il trempa le morceau et le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait ça. Ils ne savent pas que c'est Judas, sauf Jean. En effet, comme Judas tenait la bourse, il était le trésorier du groupe depuis toujours, quelques-uns pensaient que Jésus lui disait « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête ou donne quelque chose aux pauvres. » Jésus prit le morceau et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Dans plus d'un sens. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il parle de la croix dans quelques heures. Petits enfants, je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pourrez venir. À vous aussi, je le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, comme je viens de vous aimer, en lavant vos pieds, mais aussi dans toute cette histoire par rapport à Judas. Et nous allons apprendre aujourd'hui comment l'amour de Jésus éclate devant eux dans la manière dont il a traité cette affaire de sa trahison. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'approche de l'ouragan. Le contexte de cette trahison des trahisons. Nous avons lu au début du passage que Jésus dit au verset 18, Ce n'est pas de vous tous que je le dis, parce qu'il parle d'être celui qui envoie et celui qui t'a envoyé et le messager privilégié. Mais Judas est là et il fait pas partie réellement. Donc il dit, ce n'est pas de vous tous que je dis, je connais ceux que j'ai choisis. On pourrait prendre ça de différentes manières, mais nous n'avons pas besoin de nous demander le sens parce que en Jean 6, Jésus avait dit ceci, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze? Vous voyez le mot choisir encore? Ce n'est pas choisir pour le salut, c'est choisir pour être un des douze apôtres. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un démon? Il parlait de Judas, fiste de Simon Iscariote, car c'est lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Et donc, il n'y a pas d'accident. Dès le début, Jésus sait. Et le passage que je viens de vous lire en Jean 6, ça se passe bien plus tôt dans le ministère de Jésus. Il en a choisi 12. Et comment est-il possible qu'il y ait un traître qui livre le Fils de Dieu après avoir marché avec l'homme parfait pendant 3 ans? Parfois, ça donne le vertige, n'est-ce pas? Mais nous pouvons essayer de comprendre, parce que nous savons certaines choses sur Judas, fils d'Iscariote, le seul des 12 qui viennent de la Judée du sud vers Jérusalem. Les autres sont tous galiléens, bizarrement, du nord. Mais il est le trésorier. Et il semblerait qu'il a bien voulu être le trésorier. Parce que nous apprenons qu'il prenait de la bourse pour lui-même, dans la bourse pour lui-même. Il était voleur. Et il aimait beaucoup l'argent. Alors tout ça se passait en cachette et sans doute ayant, si vous avez vécu une histoire de quelqu'un qui était un traître et qui s'est révélé traître après, mais qui l'avait été pendant un temps, j'ai eu le malheur de vivre une expérience comme cela et je peux bien imaginer que Judas ait été vraiment touché par la vie de Jésus et ses paroles. Sans aucun doute. Il pensait suivre Jésus, vraiment, au début. Il était touché. Il était affecté. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne cédait pas réellement. Et il voulait un Messie. Mais il voulait une sorte de Messie, un grand libérateur, pour que tout le monde soit dans le bien matériel un jour, l'emprise romaine évacuée. Et avec le temps, il commence à être de moins en moins confortable avec les dires de Jésus. Au début, les miracles lui conviennent bien. Aucun problème. Et le fait qu'il reçoive lui-même le pouvoir au nom de Jésus de guérir, ça lui convient tout à fait bien. Il n'y a aucun problème. Il veut suivre Jésus. Il est fier d'être apôtre. Mais à un moment donné, Jésus change de ton. Et il commence à parler de plus en plus de souffrir et de mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Il parle de s'humilier, d'être comme un enfant pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ces choses-là lui conviennent de moins en moins. Ça devient critique à un moment donné. Et si vous voulez, revenez en arrière un chapitre dans Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, juste à côté, 2 ou 3 kilomètres de Jérusalem, où était Lazare qui l'avait ressuscité d'entre les morts. Là, on fit un repas, pas 6 jours avant la Pâque, 2 jours avant la Pâque. Jean nous dit, 6 jours avant, il arrive à Béthanie. Quand on lit dans les évangiles, dans les autres évangiles, on apprend que après 4 jours, c'est-à-dire 2 jours avant la Pâque, il y a un repas. OK. Là, on lui fit un repas. Donc 2 jours avant les événements que nous considérons aujourd'hui, 2 jours avant ce lavement de pieds, 2 jours avant cette nuit fatale. On lui fit un repas, Marthe servait et Lazare était de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit une livre de parfum de nard pur de grand prix qui valait un an de salaire. Nous disent les autres, en répandit sur les pieds de Jésus et lui essuyait les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'était sans doute un parfum qu'elle gardait pour le jour de son mariage. Mais ce jour-là, elle décide de le donner à Jésus. Un des disciples, Judas Iscariote, celui qui devait le livrer, dit alors: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, c'est-à-dire 300 jours de salaire, pour les donner aux pauvres? Il est fâché avec Marie. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, mettez-vous dans la scène, Judas est fâché avec Marie. Et avec Jésus pour avoir permis cela. Et il se plaint devant Jésus, devant les autres, et les autres murmurent un peu avec. Et Jésus répond à Judas, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. Donc, réprimandé en public, Judas, maintenant, et nous le lisons en Matthieu et en Marc, va partir parler avec les responsables religieux pour faire un deal, pour faire un arrangement pour livrer Jésus. Cette nuit, ce repas, le parfum, 300 jours de salaire s'envolent pour Jésus. C'en est assez, dit l'homme qui aime l'argent. Jésus se fait trop. Je ne peux pas supporter. Il est un prophète, mais il essaie de prendre une trop grande place. Et Matthieu nous dit que à la fin de cette réprimande que Jésus adresse à Judas et aux autres en disant « Vous aurez toujours les pauvres avec vous », Jésus dit « En vérité, je vous le dis, c'est Matthieu qui nous rapporte, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et je souligne le mot « alors ». Jésus dit « Partout où l'évangile sera prêché, ce que toi, Judas, tu viens de dire, c'est très mauvais. Moi, je dis, on racontera ça comme un grand bienfait. Alors, Judas partit voir les sacrificateurs pour livrer Jésus. Voilà l'ouragan qui s'approche. Arrivé au souper, Judas est là, mais il les a déjà vus. Il a déjà son argent, 30 pièces d'argent. Et il attend le moment. La Bible nous dit ailleurs, je crois que c'est Marc chapitre 14, que les principaux sacrificateurs et les chefs religieux cherchaient le moment pour faire périr Jésus, mais avaient décidé, ça va pas, on va pas le faire pendant la fête de Pâques. Parce que la foule est trop nombreuse et les gens aiment Jésus. Mais ils vont le faire pendant la fête de Pâques. Parce que ça ne va pas être entre leurs mains de décider le timing de la mort du Fils de Dieu. C'est lui-même qui décidera et il décidera tout de suite. Deuxième point. Jésus jette les dés. C'est-à-dire les dés sont jetés. Et s'avance tout droit vers l'œil de l'ouragan par la parole de son témoignage. Nous lisons le verset 10, 18 et 19. La soirée commence et Jésus, de temps à autre, au début de cette soirée, verset 10, Jésus lui dit « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livre, et c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Verset 18, « Ce n'est pas de vous tous que je dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » Donc, il dit, ici et là, je vais être trahi, mais c'est comme des allusions qui passent au-dessus de la tête des disciples. Nous sommes là, en tant qu'apôtres, en tant que disciples, on entend ces choses, mais ça ne rime à rien, donc on ne fait pas tilt. Et comme on ne fait visiblement pas tilt, Jésus change de ton radicalement. Et maintenant, au verset 21, nous lisons « Après avoir ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et fit cette déclaration. » D'abord, troublé en son esprit. Jésus voit l'œil de l'ouragan qui commence à venir vers lui. Le calvaire qui arrive. Il a en face de lui, dans cette table en forme d'U, comme les anciens le faisaient, une table basse, pas une table auquel on peut mettre des chaises, mais une table sur laquelle on est couché, chacun sur un coussin, sur son bras gauche, pour pouvoir lever sa tête, mangeant avec sa main droite. Et de sorte que, comme nous sommes tous couchés sur le bras gauche, celui qui est à ma droite est couché avec sa tête juste vers ma poitrine. C'est Jean. C'est l'auteur de cet évangile. C'est lui qui a la place d'honneur parce que il est le plus proche du cœur, de la tête, du visage de Jésus. Donc, nous sommes là et Jésus devient troublé. Le mot troublé, c'est un mot qu'on utilisait pour parler des eaux troublées, les eaux qu'on remue. Mais c'est son esprit, son âme devient troublée, prise à partie. Dans le jardin, dans quelques heures, il va dire à Pierre, à Jean, à Jacques, reste là et prie. Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Je suis au bord de mourir juste par le trouble de mon âme, par l'ouragan que je vois venir. Mais déjà, son âme est troublée parce qu'il parle du traître et il voit derrière le traître, Satan, qu'il a mis dans son cœur de le livrer. Et troublé dans son âme, le texte nous dit que Jésus fit cette déclaration. Je ne sais pas ce que votre version de la Bible dit. D'autres disent Jésus dit expressément. C'est essayer de rendre le mot grec qui signifie rendre témoignage, comme dans un tribunal. Jusqu'ici, si vous cherchez tous les mots utilisés pour décrire le langage de Jésus, on voit Jésus dit, Jésus répondit, Jésus a parlé, et maintenant Jésus a rendu témoignage. Pourquoi? Parce que parler comme ça, faire des allusions, passe au-dessus de leur tête. Et maintenant ils s'arrêtent et visiblement troublés, ils disent solennellement, écoutez-moi, l'un de vous, amen, amen, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Leonardo da Vinci a choisi de faire son fameux portrait de peinture du dernier souper en choisissant ce moment exact. Et quand vous voyez les apôtres autour de Jésus, ils sont en train de... Qui est-ce? Qui va le faire? Est-ce moi? Et on voit tout le monde dans le tumulte. Et vous pouvez imaginer 13 hommes ensemble, 13 hommes un peu rudes, et chacun parle. Ça parle dans tous les sens. Mais c'est pas possible, Seigneur, qui le ferait? Est-ce moi? Est-ce moi? Mais Jésus, en révélant qu'il va être trahi, il jette les dés et il marche tout droit dans l'œil de l'ouragan. Parce que jusqu'ici, Satan vient vers lui et il le repousse. Loin de moi, Satan. Mais ce soir, c'est lui qui le contraint à faire et faire vite ce qu'il a à faire. Il expose le traître. Et en l'exposant, il l'oblige d'y aller et d'y aller maintenant. Jésus, en faisant cela, est un témoin. Il rend témoignage. Il est en train de rendre témoignage à l'Écriture. Il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui a mangé mon pain me livrera. Je me soumets à l'Écriture. Je me soumets au plan du Père et je vous l'annonce et je le déclenche. Ça nous rappelle le moment où Jésus dit, personne ne m'ôte ma vie. Le Père m'a donné l'autorité, je donne ma vie et je la reprends. Donc, c'est maintenant les carottes sont cuites. Judas, il n'y a aucune possibilité d'aller en arrière. Si Jésus était tenté humainement d'amadouer Judas, de le convaincre, de le persuader, de ne pas y aller. Il a résisté à cette tentation. Et plutôt, il le pousse maintenant à l'acte. Il le décide. Et en faisant ça, il décide lui-même de ne pas attendre l'ouragan, mais de marcher dans l'œil de l'ouragan. Je vais me presser maintenant. Troisièmement, Jésus protège ses disciples contre l'ouragan par sa parole de prédiction. Regardez avec moi comment Jésus identifie Judas dans le verset 22. Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de lui, comme je vous ai dit. Simon Pierre lui fit signe et lui dit « Demande qui est celui dont il parle. » Tout le monde est dans son caractère. Parce que Simon Pierre, il est celui qui veut que les choses soient réglées par l'action immédiate. Toujours. Donc il fait signe à Jean parce qu'il n'est pas près de Jésus, mais il demande que Jean fasse quelque chose. Jean qui est plus contemplatif, plus doux, est là à côté de Jésus. Et il fait ce que son copain lui dit, il pose la question à Jésus. Et Jésus, sans doute tout cela, parce que évidemment personne ne comprend, tout cela se passe pendant que les uns et les autres parlent, est-ce moi, etc. Même Judas va dire, est-ce moi? Et j'ai l'impression que Judas doit être juste à la gauche de Jésus. Jean ici, Judas juste là, parce qu'un autre évangéliste dit que Judas dit « Est-ce moi ?» et Jésus dit « Tu l'as dit. » Mais il doit le dire tellement à voix basse qu'il fait exprès de ne pas avertir tout le monde. Mais il faut qu'il y en ait un qui soit témoin et qui puisse dire aux autres. Et c'est Jean. Donc il chuchote à Jean, c'est celui à qui je donne le morceau une fois que je le trompe. Et avec un geste d'amitié, parce que en ce temps, tromper un morceau et le donner à un des invités, c'était la manière de montrer une affection particulière de la part du hôte à un invité. Et ce n'est pas un geste hypocrite, il va l'aimer jusqu'au bout. Et il va lui donner le morceau. Donc, mais ce qu'il faut que nous comprenions dans tout cela, c'est, ça s'éclaire au verset 18. 18. « Ce n'est pas de vous tous que je l'ai dit, je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi. » Écoutez bien, « Dès à présent, je vous le dis, » afin que quand la chose arrive, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrive, vous croyez que moi je suis. Vous voyez, dans la pensée de Jésus et dans son cœur, c'est le souci pour la foi de ses disciples. Il n'est pas en train de penser à lui-même, il est en train de penser au choc impossible et intenable qui va leur arriver si d'un coup, sans avertissement, dans quelques heures, il est arrêté par un des leurs sans avertissement. Parce qu'ils n'ont aucune idée qu'il y ait un traître. Et donc, il dit solennellement, formellement, clairement, visiblement devant eux, pour que quand la chose arrive, et quand Jésus meurt à la croix, ils sont tentés de penser, ben, Tout cela tomba d'eau. On pensait que c'était lui, mais on avait tout faux. Que Jean puisse leur dire, attends, le soir là, Jésus m'avait chuchoté que c'était Judas. Et c'était arrivé exactement comme il l'a dit. Ce n'est pas un accident. Tout cela était prévu. Je l'ai dit d'avance afin que quand la chose arrive, vous croyez que je le suis. Quelle bonté, quelle tendresse au milieu de ce tumulte et de cet ouragan qui vient, que Jésus pense à ce détail, à ses disciples, au choc qui les attend, et il pose un pilier là, au milieu de tout ça, auquel ils peuvent s'accrocher, en sachant qu'il n'y a aucun accident ici. Le Seigneur tenait les rênes de tout ça. Jésus, maintenant, quatrièmement, dépêche le déclenchement de l'ouragan par sa parole d'ordre. Nous lisons le verset 27. Dès que Judas eut reçu le morceau, Satan entra en lui. C'est effroyable, ça. C'est effroyable. Satan, l'ange de la chute qui a plongé toute la race humaine par sa tentation dans cette misère, personnellement arrive au souper. Il arrive au souper parce que, avec le morceau, Jésus lui ouvre la porte. Vous savez que quand tu es en train de mentir et trahir quelqu'un et cette personne fait un dernier geste d'amour envers toi, une des deux choses vont arriver. Soit tu vas pleurer de repentance parce que cette personne est bonne envers toi, mais si tu pleures pas de repentance, tu vas éclater de malédiction. Si tu refuses d'avouer ton mal, tu vas te plonger dans ton mal encore plus. Et en ce moment, Judas, qui déjà il y a 2 jours est fâché avec Jésus à la place qu'il prend, il se fâche avec lui souverainement en recevant ce morceau. Quelque chose arrive dans son cœur, cette colère contre Jésus, qui ouvre la porte à Satan. C'est intéressant de lire dans les Éphésiens ceci. Écoutez les amis. Paul dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, et que le soleil ne couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. » Le diable ne peut pas avoir facilement accès à un esprit humain. Mais on peut lui donner accès. Et ce soir-là, Judas, de sa responsabilité, lui ouvre la porte. Et il entre dans cet homme qui va être traître. Mais Jésus tient les rênes de tout cela, parce que c'est lui qui donne le morceau. Et de manière intéressante, dès qu'il donne le morceau, il dit, est-ce à Judas, est-ce à Satan, est-ce aux deux? Ce que tu fais, fais-le vite. Vite. Jésus prend entre ses mains le timing de sa propre mort. C'est lui qui décidera. Il ne va pas attendre l'ouragan parce qu'il a déjà, il s'est déjà avancé vers l'œil. Et maintenant, il dépêche l'ouragan vers lui-même en disant cette parole. Ce que tu fais, dépêche-toi de le faire. Et bizarrement, quand Judas va partir pour trahir le Fils de Dieu, il va la dire, il va le faire en obéissant au Fils de Dieu. En obéissant malgré lui. Parce que la phrase signifie en quelque sorte, ce que tu es déjà en train de faire, fais-le vite. Ça me rappelle d'une des derniers versets de la Bible en Apocalypse où il est écrit que celui, à la fin des temps, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice. C'est un drame, hein? À un moment donné, on est fixé. On est fixé. Je termine en disant tout simplement que avec ses actions, le Seigneur atteint deux buts ce soir. Le premier but, je vous l'ai dit, c'est que les dés soient jetés et qu'il attire le trois sur lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Il attire le trois sur lui-même. Il attire l'ouragan sur lui-même parce que c'est la seule manière de nous sauver. Et ainsi, nous avons une manifestation de son amour qui est incroyable et non pas imitable. Ne pensez jamais que le Seigneur puisse vous commander d'imiter cela. Il est seul à pouvoir agir comme ça. Vous n'êtes pas un sauveur dans ce sens-là. Il est tout seul. Admire-le. Mais n'essaie jamais d'être comme ça. Nous, quand on est persécuté, il nous commande, si on vous persécute dans une ville, fuyez dans l'autre. Mais lui, il attire le calvaire sur lui-même. Il est le seul à pouvoir le faire. Mais dès que, vous l'avez vu dans le texte, dès que Judas part, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu le Père a été glorifié en lui. C'est-à-dire, ce que je viens de faire, en ne pas laissant venir les choses, mais en les faisant venir par mon amour pour vous, je vous ai montré la gloire de l'amour de Dieu. Je vous ai lavé les pieds. Et puis j'ai tiré le trois sur moi, par amour pour vous. C'est incroyable, n'est-ce pas? Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié. Ce que tu fais à moi, fais-le vite. J'ai envie d'y aller et envie de ne jamais y aller. Deuxième leçon. Deuxième effet de cette soirée-là, c'est que Jésus fait le tri. Il a lavé les pieds de ceux qui peuvent être lavés, pouvaient être lavés. Mais vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui peuvent être lavés par des rituels et des gens qui doivent être retranchés. Et c'est de ces deux manières que Dieu obtient un peuple pur. Il lave vous qui pouvez être lavés, et il retranche ceux qui ne peuvent pas. Et ce soir-là, il dit au début, vous êtes purs, mais non pas tous. Je parle à vous, mais non pas tous. Il a les choses les plus intimes et personnelles à dire, et il faut qu'il enlève le faux croyant pour que maintenant il puisse prendre ses poussins sous ses ailes et les préparer pour sa mort. Et les gloires à venir. Parfois, une église locale est obligée de faire de la même manière. Là, on peut imiter. On lave ceux qui peuvent être lavés. Mais parfois, l'église est obligée d'excommunier, d'enlever la personne qui ne veut pas, à tout prix, ne veut pas marcher droitement dans la foi véritable. Mais ça, c'est pour que les autres soient conservés Vous ne pouvez pas garder un traître et avoir une famille qui est saine et sauf. À un moment donné, il faut que la pomme pourrie soit enlevée des autres. Mais le Seigneur fait tout par amour. Et vous avez vu que même sa manière est tellement discrète par rapport à Judas, il n'y a qu'amour ce soir-là envers Judas. Et rendez-vous compte, s'il avait dit, c'est toi, qu'est-ce qui se serait passé? Pouvez-vous imaginer la dispute et les gens qui sautent sur Judas et et Judas n'arrive pas à trahir Jésus après parce que on l'empêche, on l'arrête. Le tumulte. Non, il n'y aura pas de tumulte, sauf pour une seule personne. Il tire le toit et l'ouragan sur lui uniquement. Il protège tous les autres par la discrétion. Si c'est moi que vous voulez, laisse ceci partir. Nous allons chanter au Seigneur et prier.